a tout un cahier. C'est beau de voir ce texte de Marc qui s'adresse à nous raconte cette rencontre entre Jésus et un lépreux. Il y en a assez peu dans les évangiles, il y a deux vraies rencontres, Saint Marc et en Saint Luc. Et en même temps, j'aime beaucoup ce passage de Saint Paul, la deuxième lecture. Saint Paul qui dit plein de bonnes choses, entre autres, imitez-moi comme moi j'imite le Christ. Imitez-moi, dit Saint Paul, comme moi j'imite le Christ. Ce fameux comme, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Imitez-moi, dit Saint Paul, comme moi j'imite le Christ. Et ce passage de l'épreuve, bien sûr, a peut-être marqué quelqu'un qui s'appelle François d'Assise au XIIe siècle, qui était bel homme, riche, comblé de relations, enfin l'homme parfait, on va dire, et beau, qui tient son nom du commerce de son père en France, François le Français, avec cette délicatesse, qui était la réputation française de l'époque, cette grâce. Et François se dit en lui-même, la première personne que je rencontrerai, j'irai l'embrasser. Et François est à cheval, il croise un lépreux, à tout ce qu'il y a de pas très beau, de hideux dans cet homme dont la chair s'en va. Et François passe à cheval et puis s'arrête, il descend, il se précipite et il embrasse ce lépreux. Et il dit, tout ce qui était amertume en moi s'est transformé en douceur. Et ça va lui apprendre aussi à transformer sa vie à travers cet être impur qu'il embrassait. Il va rencontrer véritablement le Christ, puisqu'en se retournant, on ne verra plus cet homme. Ce baiser au lépreux, c'est aussi un roman de Mauriac, c'était lui, non? Cet homme qui est moche comme tout, hideux, puis son père qui, il y a 22 ans, va lui trouver une femme sur le conseil du curé. Mon père m'a toujours dit, c'est pas l'affaire des prêtres de trouver des femmes pour les autres. Il avait raison. J'ai gardé ça dans mon oreille. C'est pas mes affaires. En ce jour de la Saint-Valentin, en plus, ça tombe bien. Dans ce baiser au lépreux, vous voyez, à chaque fois qu'elle l'embrasse, il a ce sentiment un peu épouvantable. Bref, premièrement la lèpre, deuxièmement la pureté, troisièmement, qu'est-ce qu'on a à faire avec ça? Premièrement la lèpre. Dans la Bible, l'Ancien Testament, frères et sœurs, la lèpre, c'est une maladie de peau. Tout simplement. C'est plus, ça peut être de l'eczéma ou autre chose, des plaies que la peau a. C'est plus que le bacille de Hansen, qui est combattu, qu'on retrouve encore chez certains malades en Afrique, en Asie, ou en Amérique latine, je ne sais pas trop, qui est combattu par Raoul Follereau, l'association, ou l'Ordre de Malte. Donc la lèpre est considérée dans la Bible comme une impureté, et c'est contagieux, qui va exiger des rituels de purification. Il faut aller voir le prêtre, lévitique, pour être purifié. Donc cette lèpre est la plaie par excellence dont parle la Bible, dont Dieu frappe les pécheurs. Dans l'Ancien Testament, il y a toujours un lien entre la maladie et le péché de l'homme. Israël est menacé de la lèpre, Deutéronome. Les Égyptiens seront frappés par la lèpre, et même la propre sœur de Moïse, Myriam, qui sera guérie, je crois. Donc c'est un signe de péché. Et c'est pas étonnant si celui qui est lépreux est mis à part de la communauté, du village, mis à part même, bien sûr, de sa relation à Dieu, de la prière. On ne peut pas prier avec les autres. Et donc la lèpre va toucher à la pureté. Quelqu'un qui est lépreux est quelqu'un qui est impur. On ne peut pas l'approcher, on ne peut pas lui parler, il est séparé des autres. Et dans la Bible, il y a donc des rituels, différents rituels pour se protéger. Des rituels d'abord de propreté. C'est pas étonnant, ça peut nous surprendre dans l'Ancien Testament. On ne peut pas aller dans les cimetières comme cela. Les immondices sont mis en dehors du village. Les problèmes de rituel liés à la pureté de la nourriture. Les Juifs ne mangent pas de porc pour nous séparer de la religion des païens, ou chez les païens, manger du porc. D'accord ? Donc on va se séparer par des rituels de pureté liés à la nourriture. Et le fameux bouc émissaire, ce bouc qui était là, sur qui on va imposer les mains Et le péché va descendre, toutes nos impuretés vont descendre sur ce bouc. On va prier sur ce bouc et on va le chasser des remparts et il ira mourir dans le désert, emportant avec lui ce bouc émissaire, mon péché, nos impuretés dont on se débarrasse. D'accord ? Il y a encore d'autres rituels, les lavages du corps et des vêtements et des sacrifices expiatoires pour se libérer de toutes nos impuretés, ne pas être contaminés. Il y aura une évolution dans la Bible où les prophètes vont arriver et ils vont dire qu'en fait, Dieu ne veut pas de sacrifices. Ils sont extérieurs à l'homme. Dieu, dans les prophètes de la Bible, Ézéchiel, Isaïe, Osée et d'autres, ont demandé un changement de morale, un changement de comportement. Et la purification qui est demandée, il ne s'agit pas que de te laver les mains, mais des purifications intérieures. Purifier tes lèvres des paroles mauvaises. Purifier ton cœur pour avoir une conduite irréprochable devant Dieu, etc. Et d'où l'imprécation des prophètes dans la Bible pour demander au roi de se convertir et aux hommes d'arrêter leur guerre. Une autre forme de purification. Et Jésus-Christ. Jésus-Christ, maintenant, l'unique pureté, dira-t-il, est intérieure. Et il dit à un moment, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui souille l'homme, c'est ce qui sort de ses lèvres ou de son cœur, la méchanceté, l'éclat de voix, les insultes. Jésus-Christ qui déclarera aussi que toute nourriture est pure, puisque toute la création est bonne. Et on voit dans ce texte d'aujourd'hui que ce lépreux, il le touche, alors qu'il était impur. Que Jésus-Christ ira manger et boire avec les pécheurs et les gens impurs, les publicains et les pécheurs. Il n'a pas peur d'eux. Et les Samaritains et les Samaritaines, il fera d'eux des modèles, le bon Samaritain, vous voyez ? Alors que c'était des gens qu'il fallait séparer du peuple. Il dira même en même temps, heureux les purs, heureux les cœurs purs, ils verront Dieu, dira Jésus. C'est ton cœur qui doit rentrer dans cette grâce de Dieu, cette pureté de Dieu. Saint Paul dira que c'est par la foi que Dieu purifie. Pour le chrétien, dit Saint Paul dans sa lettre aux Romains, rien n'est impur. Rien n'est impur pour un chrétien. Et le baptême est bien sûr ce qui va nous laver de toute souillure, ce qui va nous faire rentrer en nous dans la grâce de Dieu, même avec les impuretés. Et à chaque fois que j'essaie de commenter la parole de Dieu, frères et sœurs, je me dis, mais qu'est-ce que les gens peuvent retenir de la parole de Dieu, de Saint Paul aux Corinthiens, du Lévitique ou de Saint Marc aujourd'hui? Je me demandais si on n'a pas aujourd'hui une tendance aussi parfois à revenir sur des modèles de pureté ou d'impureté. C'est juste une question. Je n'ai pas trouvé d'exemple vraiment très probant, mais ça me travaille. À travers les réseaux sociaux, on est sur Twitter, etc. Si vous allez dessus de temps en temps, c'est incroyable comme dans ce qui est écrit, tout de suite les gens sont catégorisés, sont marqués, pour être comme des lépreux, comme des gens impurs. Comme si les gens aimaient classer, rigidifier l'autre dans ce qu'il peut dire, dans ce qu'il peut faire. Des paroles violentes, une manière de rejeter l'autre, de le dire, il est impur, il ne faut pas lui parler. Dans des règles de pureté de nourriture ou d'hygiène, par exemple, qui sont de plus en plus strictes, c'est un peu étonnant. C'est un peu étonnant. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui manger de tout avec quelqu'un? C'est pas si simple. On fait des camps et des scouts, ben c'est compliqué. Il faut plusieurs menus. Dans des formes d'intégrisme dans les différentes religions, chrétiennes, musulmanes ou juives, il me semble qu'on a tendance aujourd'hui, je peux me tromper, dans toutes les liturgies, à retrouver des règles de pureté très compliquées, de lavage, de sacrifices expiatoires, etc. C'est surprenant dans la jeune génération. On a parlé à une époque assez lointaine, mais pas si loin que ça, de la pureté de la race. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Mais j'aime beaucoup dans ce que dit Saint Paul, d'aujourd'hui dans sa lettre aux Corinthiens. Et ça peut vous aider, il me semble. Tout ce que vous faites, dit saint Paul, manger, boire ou toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu. Faites-le pour la gloire de Dieu. Dans toutes les petites choses de ta vie, dans ton travail, dans ton engagement dans une association, dans ta relation familiale, amicale ou autre, tout ce que tu fais, fais-le pour la gloire de Dieu. Tout. C'est-à-dire que saint Paul mélange le pur et l'impur. Parce que pour lui, il faut imiter Jésus-Christ. Et quand on voit Jésus-Christ, comment il vit, saint Paul dit lui-même, il ne fait que copier Jésus. Ne soyez un obstacle pour personne, dit saint Paul. Il dit, je tâche de m'adapter à tout le monde. Je tâche de m'adapter à tout le monde. Et ça, c'est beau. C'est ce qu'a fait Jésus-Christ. Il s'adapte aux lépreux, il s'adapte à la Samaritaine, il s'adapte aux enfants qui passent, il s'adapte aux pharisiens, il s'adapte à la pécheresse, il s'adapte à tout le monde. C'est une manière pour toi, quand tu imites Jésus-Christ, tu es sûr de garder la vérité de l'Évangile. Tu es sûr de garder la pureté de l'Évangile et de rentrer dans la grâce de Dieu. Un travail de toute une vie, et c'est un beau travail. Amen.